Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Café Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, les conseils du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre au service de la radio de la paix. Le favoritisme à l'université, dangers et moyens de prévention. Je l'ai dit tantôt, à RDC, parmi les mots qui minent le secteur universitaire, on cite le favoritisme. Nous en parlons donc avec Célestin Dimandia, professeur à l'Université catholique du Congo. Célestin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Alors, d'entrée de jeu, quel est le rôle que doit impérativement jouer l'université dans une société?
L'université a à produire pour la société l'élite au niveau du savoir, l'élite au niveau du pouvoir, disons de leader pour faire avancer la société, l'amener à progresser. L'université a à former des professeurs pour assurer la relève. L'université a à former le citoyen qui a comme mission de pouvoir travailler pour son pays, et cela dans le secteur où il se sera spécialisé. Parce qu'à l'université, il y a la culture générale, bien sûr, mais l'université est ainsi faite que chacun doit se spécialiser dans une filière donnée. Et il s'agit de produire les meilleurs.
Est-ce que tout le monde peut faire l'université dans une société?
À mon avis, oui. Il n'y a pas de limite. Depuis qu'on est passé de l'université élitiste qui a existé dans le siècle antérieur pour la démocratie, la démocratisation de l'enseignement supérieur, tout le monde a accès à l'université et tout le monde peut émerger comme élite, même au niveau de l'université. On ne peut pas dire à l'avance qu'il y a des couches sociales qui sont exclues. C'est finalement tous nos enfants, et quand vous tenez compte des universités des aînés, tous les hommes, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition sociale, quelle que soit la condition économique, tout le monde peut faire l'université.
Mais le niveau d'adaptabilité ou la capacité de s'adapter à cette formation ne peut-elle pas constituer un atout ou peut-être un élément de base pouvant ou une condition sine qua non pour le moment accéder à l'université?
Toutes les universités indiquent à quelles conditions on peut y accéder. Hein.
Mmh.
Par exemple, pour les jeunes, il faut avoir terminé son secondaire avec le pourcentage requis. Chez nous, en fait, quand vous avez votre diplôme d'État, vous pouvez accéder à l'enseignement supérieur. Mais dans certaines universités, notamment les universités privées, parfois ces conditions sont renforcées. On va vous dire, oui, le diplôme d'État, ça va, mais un diplôme d'État obtenu avec tel pourcentage. Pour les privés, nous n'avons rien à dire, parce qu'il s'agit de l'idée qu'ils se font de la meilleure qualité, de meilleures conditions, de la meilleure préparation pour accéder aux filières qu'elles organisent. Mais normalement, dans les universités publiques, tout celui qui a un diplôme d'État et qui arrive à temps, qui remplit les conditions, dans la mesure où l'université a des places disponibles, vous pouvez facilement être accepté. De même, pour les personnes de grand âge, il est prévu dans les universités dites ouvertes ou les universités des aînés, hein, des conditions qui permettent à ceux qui travaillent de pouvoir mener parallèlement leurs études. Les conditions sont définies par chaque établissement.
Oui, professeur, encore vos propos, et surtout par rapport à l'objectif de l'université, notamment de produire l'élite au niveau du savoir, ou si vous voulez, produire des leaders de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut oser dire que le favoritisme au sein de l'université, à l'université, peut constituer un obstacle pour atteindre cet objectif-là?
dites, quand vous dites favoritisme, naturellement c'est un défaut. Nous ne pouvons pas encourager des pratiques qui favorisent outre mesure certains étudiants, surtout quand cela porte préjudice à d'autres catégories. C'est en ce moment-là que l'on parle du favoritisme. Dire à l'avance que tel, étant donné de telle région, puisqu'il est sorti de telle famille, ou parce qu'il appartient à telle classe, il doit nécessairement réussir, et réussir parfois même au détriment d'autres personnes qui sont sans ce type de soutien et qui le méritent. Là, ce type de favoritisme, il faut le combattre. Et je crois que, du moins dans les universités où j'ai évolué, où j'ai étudié, où j'enseigne, c'est quelque chose qui est considéré comme un obstacle à abattre, qu'il faut combattre quotidiennement.
Oui, mais aujourd'hui on parle, dans le langage courant, d'ailleurs en milieu universitaire, on parle des enfants d'abord. Vous êtes sans ignorer, professeur, que ce phénomène est réel.
Le phénomène peut être réel, je ne vais pas le nier, mais je dois vous avouer que je n'en connais pas très bien la portée. Parce que quand on dit les enfants d'abord, ça veut dire que...
Les enfants des professeurs d'abord.
Les enfants des professeurs d'abord.
Oui.
Écoutez, si l'enfant de professeur ne remplit pas les conditions, s'il n'étudie pas convenablement, si l'enfant du professeur est tout le temps en dehors de l'université, on ne le voit jamais assister au cours, et que, comme par un coup de baguette magique, on le proclame comme ayant réussi avec distinction, parfois avec la plus grande distinction, là ce sont des phénomènes qu'il faut absolument combattre, et qui méritent même de faire l'objet d'une étude au niveau de l'université. Je conseille plus cette voie-là, qu'on puisse voir parmi les enfants des professeurs qui ont été nommés ou qui étudient, qui ne remplit pas les conditions, qui n'a pas suivi son curriculum normal, et à qui on a offert un poste sur un plateau d'or, sous prétexte, pour la simple raison qu'il est fils de professeur ou fille de professeur. Là, ce serait autre chose. Mais je n'aimerais pas que l'on continue avec des condamnations globales, massives, qui ne reposent pas sur des enquêtes préalables. Parce qu'il faut voir d'autre part, il ne faut pas qu'on soit des autophages, hein, des gens qui se mangent eux-mêmes. Si l'enfant du professeur a suivi normalement le curriculum, il faut le traiter comme n'importe quel autre étudiant. S'il réussit, il faut lui donner les points qu'il le mérite. Je connais de ça des enfants de professeurs qui ont brillamment réussi, qui sont même retenus assistants pour le moment, et contre lesquels ni leurs collègues étudiants, ni le corps enseignant n'a rien à dire, simplement parce qu'ils remplissent les conditions. Je crois que le tout est dans la manière de faire respecter le règlement de l'université, les procédures légales reconnues. Mais on ne peut pas dire à l'avance, parce que quand j'entends souvent les enfants d'abord, on croit que dans la tête de l'ensemble des professeurs, le simple fait d'avoir un enfant donne le droit à cet enfant-là d'aller jusqu'au sommet de l'université, au sommet de différentes cotes que l'on peut accorder.
Professeur Célestin, est-ce que c'est cette façon ou cette manière de favoriser les enfants des professeurs ne peut-elle pas constituer une bombe à retardement?
Ça constitue une bombe à retardement, non seulement quand il s'agit des enfants de professeurs, mais même de n'importe quel étudiant que l'on laisse passer au mépris de règlement, au mépris de la loi. Tant que nous ne respectons pas la loi, quel que soit le bénéficiaire, nous préparons une mauvaise société pour nous-mêmes. Et ça va se retourner tôt ou tard contre la société congolaise.
081 890 63 94 pour les appels et le 081 070 20 50 pour les SMS. Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 10h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces Vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine libre service de Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui de favoritisme à l'université, dangers et moyens de prévention. Comme vous le savez, en RDC, parmi les mots qui minent le secteur universitaire, on cite les favoritismes. Et d'aucuns estiment que tous les étudiants ne sont pas traités avec la même rigueur académique. Nous entretenons avec Célestin Dimanja, professeur à l'Université catholique du Congo, qui nous a laissé entendre que l'université a comme rôle le principal à jouer, c'est de produire l'élite au niveau du savoir et produire également des leaders pour la société. Mais voilà, donc, s'adonner à cet exercice de favoritisme, c'est en fait détruire la société. Nous avons en ligne Séraphin Tudika, qui nous appelle de Kikwit, dans le Bandundu, et John Muleya Kalemi, au Katanga. Séraphin, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, je voudrais d'abord remercier et saluer avec tout le respect le professeur qui est sur le plateau et l'invité du jour. Mais je lui informe que peut-être lui n'en connaît rien sur ça, mais c'est une réalité quand les gens sont en train de crier. Parce qu'il y a encore un cours qui n'a pas de programme en séjour au Congo, qui s'appelle suivi. Je ne sais pas s'il est informé de cela ou pas, mais je l'informe en séjour. Mais je voudrais simplement dire ceci. Nous constatons que le vade-mecum qui régit l'enseignement supérieur universitaire donne certains préalables. Mais nous constatons que si un enfant, un frère, nièce ou neveu, petit ou petite fille, des membres de l'enseignement supérieur universitaire, il est beaucoup plus favorisé par rapport aux autres. Même si cet étudiant est excellent, intelligent, il a distingué, selon le vade-mecum, on doit le retenir comme assistant de premier mandat. Mais ce que nous constatons, ce n'est pas le cas. Vous remarquerez que celui-là est mis en écart, mais le frère d'est, parce que on le prend, on le cale, mais provoquant ou est en train de chercher des bombes à retardement les jours à venir. Nous regrettons ces faits-là parce que nous les constatons et nous les vivons actuellement. Je sais que peut-être il pouvait être un prêtre, bon, il n'a pas surtout ce temps-là d'entrer en profondeur de ces éléments-là, mais je l'informe que ces choses-là existent et c'est vrai. Et c'est comme ça, nous constatons que dans nos entreprises, quand on prend de telles personnalités parce qu'il est frère ou fils d'eux, on les place à la tête, bien que n'ayant pas la connaissance qui pourra développer cette entreprise, vous remarquerez que nous sommes en train d'aller en dégringolement par rapport à ces gens-là qui a été favorisés depuis l'université. Et quand ils terminent, pour ne pas rester comme ça, on les prend, on les donne des responsabilités pour diriger les entreprises du Congo.
Merci beaucoup Séraphin et un coucou particulier à tous les Kikwitois, c'est comme ça qu'on les appelle, Kikwitois, voilà, c'est difficile un peu, hein, c'est les habitants de Kikwit dans le Bandundu. John Muleya, vous êtes à Kalemi, bonjour. Bonjour John. Voilà, Céleste Dimanja, vous avez suivi Séraphin, qui a parlé d'ailleurs de suivi, hein, un cours qui n'est pas répertorié d'ailleurs, vous en savez quelque chose, hein, professeur?
Pas du tout.
Le suivi.
J'aimerais le rassurer sur un point. Je ne suis pas prêtre. Je vous parle de chez moi, au milieu de ma famille. Tous les enfants sont à l'école.
Moi, vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo.
Voilà. Et j'ai étudié à l'Université catholique ici au Congo et à l'étranger. Un cours qui s'appellerait suivi, je n'en ai jamais entendu parler, du moins dans le milieu où j'évolue. Mais je sais, puisque depuis hier, quand vous m'avez intéressé à cette émission, j'ai commencé à me renseigner un peu. J'ai entendu certains étudiants, non pas de l'Université catholique du Congo, mais d'ailleurs, me parler de branchement, de suivi, de comment on appelle ça. Mais quand j'ai discuté avec eux, je leur ai demandé s'ils pouvaient, sous le sceau du secret, mais dire de quel était le professeur qui était mis en cause. Un des étudiants dans le groupe qui me parlait hier m'a avoué qu'en réalité ce ne sont pas de professeurs, ce sont les assistants, le personnel auquel certains professeurs délèguent des enseignements, qui s'autorisent ce type de pratique, hein, qui disent « allez dresser la liste, faites-moi ceci, tant qu'il n'y a pas de suivi, tant que vous ne vous êtes pas branché », ça signifie la même chose que le suivi dont il parle, « tant que vous ne vous êtes pas branché, je ne saurais pas m'occuper convenablement de votre copie ». Mais ça, c'est à mettre non pas sur le compte des professeurs, si je m'en tiens à la petite enquête que j'ai menée hier. C'est pour cela que je disais, il y a de ces situations, avant d'en parler, il vaut mieux, parce que ça relève aussi de travaux possibles à l'université, que l'on puisse mener des enquêtes sérieuses, pour qu'on puisse dire, voilà, dans telle situation, il s'est produit ceci, et on peut tirer des conclusions plus ou moins générales à partir de là. Mais nous contenter des rumeurs, là, ce n'est pas propre à l'esprit universitaire. Donc, le suivi, j'en ai entendu parler hier, si tu veux. Mais je dois témoigner que là où j'évolue, je n'ai jamais entendu parler de
professeur Célestin, vous serez peut-être d'avis avec nous que certains professeurs, en tout cas entre guillemets, parce que ça appelle quand même aussi une enquête qu'il faudrait bien mener, certains professeurs compliquent aussi les choses pour amener les étudiants à ce genre de pratiques, notamment les suivis, les branchements, parce que quelque chose qui doit être clairement donné à l'étudiant, vous avez un professeur qui complique derrière son cours et qui, déjà la première, le premier jour, il dit aux étudiants, chez moi, c'est lui qui aurait, il n'y a que Dieu qui peut avoir 18 sur 20, et les autres, 0. Donc, nous avons entendu parler de ça à l'université.
Oui, je crois qu'il y en a qui en parlent, mais moi, je vous fais remarquer que dans certains milieux, et c'est peut-être mon cas aussi, il m'est arrivé d'avoir 20 sur 20 pendant mes études. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais mettre une barrière en disant à l'étudiant, vous êtes incapable d'avoir 20 sur 20. Puisque celui qui buse, comme nous disons chez nous, hein, qui fait échouer un étudiant, il doit normalement se mettre en question. Parce que ça signifie que probablement la méthode utilisée par l'enseignant n'était pas adaptée. Et là, ce n'est plus la faute de l'étudiant. Mais si vous avez enseigné les choses convenablement, dans l'enseignement à l'université, et j'ai donné pendant longtemps le cours de méthode d'études à l'université, l'enseignant est obligé d'indiquer aux étudiants comment il va évaluer dans sa matière, comment il va poser des questions. C'est une manière d'habituer les étudiants à son esprit pédagogique, à son esprit en matière d'étymologie, en matière d'examen. Donc, il y a lieu d'améliorer. Moi, je me dis, et je le dis même aux collègues, dans les conseils de faculté, quand nous voyons qu'il y a trop d'échecs chez tel ou tel collègue, on lui dit non, il faut vous remettre en question. Parce que ce n'est pas normal, quand vous avez enseigné convenablement, que tous les étudiants échouent. Donc, il y a des instances au sein desquelles les enseignants peuvent se remettre en question, et dans certaines universités, on demande même aux étudiants d'évaluer les professeurs, de dire comment ils enseignent, comment ils posent des questions et quelle est l'appréciation qu'ils portent sur les professeurs. Évidemment, ça peut ne pas avoir un impact sur la carrière du professeur, mais ça permet au moins aux instances supérieures
de se faire une idée,
de voir comment chacun évolue.
Nous avons en ligne deux autres auditeurs, Nico Magbanga à Kinshasa et Florence Mbombo qui nous appellent de Lubumbashi. Nico, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Je voudrais juste féliciter les professeurs pour ce genre de sensibilisation. Merci beaucoup pour sa contribution, mais il y a quand même quelques petites préoccupations qui nous a bien frappé. J'allais demander à monsieur le professeur si il peut relever ce qui est à la base de ses favoritismes en milieu universitaire. Compte tenu du temps et espace où ça a commencé, de quelle époque. Et deuxièmement, j'allais aussi demander si au niveau des conseils facultaires, les professeurs tiennent aussi des réunions pour voir comment on peut juger à décourager ce genre de comportement parce que ça compromet quand même notre système d'enseignement universitaire. Parce que dans 5-6 ans, on peut constater que non, malgré l'université, mais les choses ne seront plus prises au sérieux parce qu'on constate qu'il y a des favoritismes, mais on soutient certains au détriment des autres. Alors je ne sais pas si au niveau des conseils facultaires, les conseillers tiennent ce genre de réunions pour que tout le monde soit conscient de ces favoritismes et en fait de prendre des mesures pour décourager ça. Troisièmement, je ne sais pas si les professeurs dénoncent ce qui se fait ailleurs ou ce qui se fait aussi là où il est aussi comme professeur. Bon, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Nico. Florence Mbombo, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question ou votre préoccupation?
Bon, je remercie d'abord notre visiteur que j'ai salué en passant. Peut-être qu'il y a des choses que lui ne connaît pas, hein. On peut lui informer aussi. À l'université, c'est à Lumbashi, pas seulement favoriser les enfants des profs ou bien quoi. Il y a aussi des types de tribalisme qui règne. Quand on est Katangé, on est obligé de passer des promotions. Hein? Même si on ne maîtrise pas, il y a des gens qu'on les voit qui ne sont même pas sur les bancs de l'université, mais qui passent sans problème. Ce qui se passe aussi, comment remédier à cette situation? Je vous remercie.
Merci Florence. Professeur Dimanja, la première question, la première intervention, celle de Nico, à trois volets. D'abord les causes de ce genre de phénomène que nous observons en milieu universitaire et au niveau du conseil facultaire, est-ce que on arrive quand même tant soit peu à décourager ce genre de pratiques et puis comment disons à votre niveau Nico aimerait bien savoir si vous dénoncez ce qui en fait c'est nous qui avons proposé ce sujet et nous dénonçons tout ce que nous observons en tout cas à travers le pays dans toutes les universités et dans tous les instituts supérieurs du pays. Voilà, donc le professeur, bon, il n'en sait rien, donc, mais je crois que le professeur Dimanja, vous êtes mieux placé pour répondre à cette question qui a deux volets, pratiquement.
Oui. Bon, pour les causes, ça demande une enquête. Je n'aimerais pas ajouter des rumeurs aux rumeurs. C'est pour cela que je souhaite que ces enquêtes sérieuses, détaillées, puissent être faites. Quant à savoir si cela se pratique dans le milieu où j'évolue, je crois que tout le monde l'a senti, je n'ai pas encore rencontré de pratique de favoritisme hein, à l'Université catholique du Congo. Ici à Kinshasa, en tout cas, non. Je n'ai pas encore rencontré ça. Mais, compte tenu des informations que nous recevons, d'ailleurs, il nous arrive, dans certains cours, d'insister sur la manière dont l'étudiant doit se comporter, en lui expliquant aussi quelles peuvent être les attitudes positives, négatives de la part du professeur. Donc il nous arrive d'évoquer ces pratiques de favoritisme sous forme d'illustration. Pour le reste, quant à savoir si ça fait l'objet de débats dans les conseils de faculté, oui, ça, à chaque fois que c'est découvert, quand c'est découvert, mais on ne raisonne pas sur des rumeurs. Quand il y a des cas de favoritisme qui sont portés à la connaissance des autorités, eh bien, c'est évoqué puisque le doyen informe son conseil, il informe toutes les autorités et le problème est débattu non seulement au conseil de faculté, mais même au conseil académique. Pour que les autres facultés puissent éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Quel était encore l'autre question?
Oui, Florence qui a parlé du tribalisme constaté au niveau de l'université de Lumbashi, si on n'est pas catalogué. Voilà.
C'est la même chose. Donc là aussi, on fait attention. Et d'ailleurs, là je me souviens de l'expérience que j'ai vécue. Quand j'enseignais les méthodes d'études à l'université, c'était pour toutes les premières années à l'université, tous les premiers graduats. Et il m'arrivait de d'attirer l'attention des étudiants sur cette tendance à favoriser les gens de votre milieu, de votre milieu d'origine, de vos établissements d'origine. Et il arrivait régulièrement, quand je menais ma petite enquête, je faisais rire les étudiants, de demander à ceux qui étaient assis sur un même banc de dire d'où ils venaient. Et bien, régulièrement, vous trouviez des étudiants qui viennent d'un même établissement, qui parlent la même langue nationale. Au Congo, ça peut être le Swahili, ça peut être le Lingala, ça peut être le Kikongo. Donc, c'était pour leur montrer que, au début, c'est une tendance que l'on peut considérer comme normale. Mais seulement, avec l'évolution, vous n'allez pas prendre cette appartenance-là comme critère de jugement. Nous luttons contre ce type d'attitude mentale. Dire, si vous n'êtes pas de mon milieu, alors vous ne valez rien, vous ne pouvez rien mériter, je ne peux pas vous laisser passer, c'est un problème. C'est un problème contre lequel il faut lutter, d'autant plus que ça s'origine, si vous voulez, sur des sentiments ou des tendances que nous considérons comme normales, mais qui peuvent devenir des obstacles quand il s'agit de les ériger en critères de jugement. Et là, j'ai eu l'impression que beaucoup d'étudiants ont fini par comprendre, si bien que en les suivant au cours des années, vous allez voir qu'il y a une autre osmose dans la classe. Hein, les gens se parlent ou commencent à travailler dans des petits groupes qui n'ont plus rien à voir avec les origines.
Voilà, nous avons Victor Moufoyer à Lubumbashi et Valérie Katenga à Kananga, au Kasaï Occidental. Et Victor, bonjour. Bonjour Victor. Voilà, on va quand même passer à Valérie. Valérie, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, le professeur Dimanjal étant encore retrouve les auditeurs, les intervenants. On aimerait un peu savoir, est-ce possible de prévenir les favoritismes, cette injustice en milieu universitaire? Est-ce qu'on peut on peut quand même prévenir ces favoritismes?
On peut le prévenir de plusieurs manières. Par exemple, et c'est essentiel, en demandant que soit appliqué le règlement de l'université. Et dans le règlement de l'université, moi, quand on me parle, il y a des favoritismes de partout, etc., je me dis, est-ce que on a trouvé un établissement universitaire ou supérieur au sein duquel il est dit quelque part de manière explicite, noir sur blanc, qu'ici, on favorise les originaires, on favorise ceux qui ont été dans tel ou tel milieu? Non, ça n'existe pas. Sur le plan juridique, non. C'est au niveau de la pratique, au niveau de la mentalité, que nous risquons d'introduire à l'université des anti-valeurs. Favoriser les originaires, favoriser les gens de sa famille, favoriser ses propres enfants, ce sont des anti-valeurs qu'il faut combattre. Et pour le combattre, il est bon qu'on connaisse de cas réels, qu'on ne se contente pas d'une sorte de prédication générale. Il faut éviter les anti-valeurs, il ne faut pas favoriser les enfants, il ne faut pas faire ceci. Parce que parmi ces enfants ou parmi ces frères ou ces sœurs, il peut y avoir des gens, des étudiants brillants. Il ne faudra pas, au retour, pratiquer une sorte de tribalisme à rebours. Tout tribalisme est mauvais.
Voilà, merci professeur Célestin Dimanja. Nous rappelons que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. Nous allons peut-être développer encore ce sujet dans les jours à venir, hein, bien entendu, avec un bon nombre de réactions des auditeurs. Nous remercions d'ailleurs les auditeurs qui ont participé à cette émission, et surtout pour ce sujet ayant trait au favoritisme à l'université, danger et moyens de prévention. À vous, professeur, nous disons merci et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie et je reste à votre disposition.